Aujourd'hui, avant de commencer ma prédication, j'aimerais remercier l'Église, tous les membres de l'Église, le phare, et notamment, en toute particularité, Antoine et Christiane, le couple pastoral, pour la confiance qu'ils m'ont toujours accordée. Et en passant, c'est Antonia que je remercie aussi. Comme je l'avais dit la dernière fois que je suis passée devant cette chaire, c'est grâce à elle que nous sommes là. C'est grâce à elle que je suis devant vous. Mais je sais que c'est par le biais du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous communique tout. Et c'est avec une grande émotion que je remercie toute l'Église. Vraiment, nous sommes très reconnaissants de ce que vous avez fait, de votre participation, de votre investissement au mariage de nos jeunes, de notre jeune couple, d'Eliakim. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler Eliakim depuis que j'ai entendu parler de lui. Mais c'est Jean. C'est Jean comme vous l'appelez. Et je vous remercie vraiment. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur un sujet sur lequel mon époux, qui est pasteur, a commencé à prêcher là, chez nous en Afrique. Mais je crois que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Comme a dit Antoine, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est pour tout le monde. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Et le thème que j'exploite moi aujourd'hui, c'est que recevoir Jésus-Christ, c'est ça, recevoir Jésus-Christ, c'est un acte de foi. Et en choisissant ce thème, j'ai pensé à tout ce qui est définition de la foi. Mais je ne m'appesantirai pas sur le thème de la foi en soi. Parce que c'est que mon mari, le pasteur Franck, comme nous l'appelons toujours, c'est qu'il a dit à son intitulé, il a dit « La faiblesse du chrétien combattant l'Église ». Je ne reviens pas sur sa prédication, mais c'est ce qui m'a inspiré aussi parce que j'ai appris beaucoup en l'écoutant. Souvent, c'est nous-mêmes chrétiens qui affaiblissons ceux qui nous côtoient, qui nous voient vivre au jour le jour. C'est nous qui affaiblissons leur foi parce que nous leur montrons une certaine faiblesse. Et cela ne peut pas faire plaisir à notre Dieu. Et quand nous définissons la foi, selon la parole de Dieu, on nous dit de la foi que la foi vient de ce qu'on entend. C'est dans Romains 10, au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend souvent, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'on entend régulièrement la parole de Dieu, c'est un peu comme cette musique qui fait endormir un bébé. Cette musique qui fait du bien, qui vous rapproche de l'éternité, qui vous rapproche de Dieu, qui vous rapproche de ce bonheur-là qu'on ne peut pas toucher. et qu'on ne peut même pas de soi-même transmettre à quelqu'un d'autre. Parce que c'est l'Esprit Saint de Dieu qui communique cela. Et même cette foi peut venir aussi de, non, je voulais dire, certaines de nos intimes convictions viennent de ce que nous avons entendu ou alors ce que nous avons lu. Et ce verset, il nous fait comprendre ce que tout enfant de Dieu devrait savoir. Seule la parole de Dieu détient la vérité dont nous devons nous imprégner. Ça ne peut venir de nulle autre part. Et j'ai toujours été touchée par une parole venant de la bouche de Dieu. Et je l'ai découvert, j'avais déjà plusieurs fois lu la Bible, mais cela, c'était comme un flash que j'ai découvert cette année. Et j'aimerais que, si tu l'entends aussi aujourd'hui, que ça puisse déclencher quelque chose. Et vous pouvez nous lancer ce verset en Deutéronome 5, verset 29. Ça, c'est une exclamation qui vient de Dieu. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Et ça m'a révélé la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Cette volonté de nous voir heureux, nous et nos enfants, et j'ai dit encore, et nos petits-enfants, et nos arrière-petits-enfants, et toute la postérité que nous pouvons avoir. Et Dieu a dit cela, c'était lorsque Moïse descendit du mont Sinaï et qu'il faisait le rapport au peuple d'Israël sur ce que Dieu lui avait recommandé pour son peuple. Et dans le même contexte, au verset 27, la Bible continue avec le rappel par Moïse, disons, de ces récits, et c'est la réaction de Dieu est partie de la réponse du peuple d'Israël qui a autorisé Moïse à se tenir devant Dieu de leur part. Et ils l'ont délégué pour écouter les paroles de Dieu. Et surtout, c'était les 10 commandements de Dieu, et pour leur en faire le rapport après. Et le verset 28 nous confirme l'approbation de Dieu face à l'attitude d'Israël. Parce qu'il dit, tout ce qu'ils ont dit est bien. Tout ce qu'ils ont dit est bien. C'est vrai, tout ce que nous, chrétiens, enfants de Dieu, prédicateurs, pasteurs, tout ce que nous pouvons dire, tout ce que je peux dire ici est bien. Amen. Tout ce que je peux dire est bien. Mais alors, si nous pouvions le craindre, ce Dieu-là, si nous pouvions le craindre, ce serait alors meilleur, ce serait mieux. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir cette conviction que Dieu ne veut que notre bonheur. Et lorsque nous faisons face à des problèmes, à des épreuves, à des obstacles, disons-nous que ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un moment, un mauvais moment à vivre, mais soyons sûrs et certains que le meilleur est à venir et que nous aurons une solution pour notre bonheur, car c'est ça la volonté de Dieu. Et elle prime dans tout. Et ce qui nous est souligné ici devrait en fait soutenir notre foi et nous aider à croître, à grandir dans la crainte du Seigneur. Parce que cela va de pair. On ne peut pas vivre et se dire, je laisse l'une de ces choses et je marche avec l'autre. Non. On doit marcher dans la foi, mais aussi dans la crainte de Dieu. Et si, malheureusement, là je voulais dire, malheureusement, nombreux d'entre nous ne saisissent pas cette réalité se trouvant, et parce qu'ils trouvent les commandements durs à suivre. J'ai je suivais un jour un frère pour l'amener à l'église. Le premier dimanche, il nous a accompagnés. Mais le deuxième dimanche, quand je suis allée le chercher, il m'a dit, mais je ne t'ai jamais dit que moi j'avais changé de religion. Ce qui m'avait dit, j'étais déçue. Je me disais, mais Seigneur, moi je croyais que c'était facile parce qu'il est venu la première fois. Mais comment se fait-il qu'il ne vient pas, il ne veut pas venir aujourd'hui? J'ai dit, Seigneur, ça je crois, j'ai lu déjà dans ta parole que nul ne vient à toi si tu ne l'as appelé. Amen. Alors appelle-le toi-même. Parce que moi, je ne suis qu'un intermédiaire, qu'une intermédiaire. Mais toi, si tu le touches, il viendra. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a déjà donné sa vie à Dieu, mais après combien d'années? Je crois après 10 ou 15 ans. Mais les résultats, c'est ce qui compte. Et c'est parce que les gens sont ainsi, parce que non seulement, comme j'ai dit, ils trouvent les commandements de Dieu difficiles à suivre. Parce que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, les notions de bien et de mal sont parfois confuses. Hein? Elles sont confuses. Et de sorte que tout le monde, chacun d'entre nous est en danger d'adopter parfois un jugement complètement faussé. Et c'est ce qui arrive même aux chrétiens les plus assidus. À un moment, il est découragé. Il est découragé et il ne sait plus remonter la pente. Et si, pour nous, qui nous réclamons de Jésus-Christ, notre Sauveur, si notre jugement n'est pas fondé sur la parole de Dieu, nous nous perdrons sûrement avec ceux qui sont voués à la perdition. Or, ici, je ne vois personne qui veut être voué à la perdition. Si on peut s'apprêter chaque dimanche et assister à des séances de prière, participer à des conventions de prière, d'évangélisation, et perdre ainsi son temps pour se perdre pour la vie, je crois que ça ne vaut pas la peine. Et c'est pourquoi j'ai intitulé mon thème « Recevoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est un acte de foi ». Et j'ajouterai même « risquer ». Et pourquoi risquer? Parce que on ne sait pas à quoi s'attendre. Amen. On ne sait pas à quoi s'attendre. Après les premiers jours des zèles, hein, parce que quand on reçoit Jésus-Christ, on est converti, on est zélé pour la parole de Dieu, on est zélé pour l'évangélisation, on est zélé pour tout. Mais après un temps, les problèmes surgissent. Aïe, moi qui croyais que c'était si facile. Et on sent la lourdeur des choses. On sent qu'on fait face à un monde qui est cruel, un monde qui ne nous aime pas, qui ne reçoit pas cette parole de la même manière que nous. Non, alors là, on est découragé, on se dit parfois, mais est-ce que ces dieux-là existent réellement? Mais moi, j'aimerais vous dire, bien-aimés, que ce Dieu-là, il est réel, il est vivant. Et moi qui me tiens ici devant vous, j'ai aussi un témoignage. Le Seigneur m'a fait des grandes choses pour moi cette année, des choses auxquelles je ne croyais même plus. Quelque chose. Alors, à un moment donné de ma vie, c'est vrai, je le servais, j'étais zélée et bon, j'encourageais beaucoup de gens à suivre Jésus. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, entre parenthèses, habituellement, quand j'ai demandé aux gens, on demandait à nos fidèles de prier pour, parfois pour une intention, pour une étape du culte. Et à Bukavu, ils ont l'habitude de dire, Seigneur, donne-moi une fin honorable. Amen. À la fin de leur prière. Et ça, ça m'interpellait à chaque fois. Je me disais, mais Seigneur, dans ta parole, il y a quelque chose qui est semblable à ça. Parce que, en concernant les boucs et les brebis, hein, vous savez, vous connaissez cette parabole. Et c'était une prédication de Jésus-Christ. Et je me dis, est-ce que je pourrais être parmi ceux dont tu dis, oh, loin de moi, parce que moi, je ne vous ai jamais connu. Je n'aimerais pas finir comme ça, Seigneur. Or, dans l'état où je me trouve actuellement, peut-être que je suis en train de me dire que ce n'est pas ainsi que j'aurais voulu finir ma vie. Un moment, c'est vrai, ce n'était plus une demande pour moi que je puisse sortir de ma solitude parce que je vivais seule et ma fille était loin. Hein, et je me suis dit, Seigneur, peut-être que je peux mourir avec l'amertume au cœur à cause de cette solitude. J'y avais pensé un jour et c'était passé. Mais Dieu qui sonde les cœurs et les reins, lui, il a entendu cette prière. Il a entendu cela et je suis sûre qu'il s'est dit non, ma fille ne devra jamais se perdre. Alléluia. Et vous savez ce qu'il a fait? Quand j'étais ici la dernière fois en 2018, j'étais déjà en contact, on échangeait avec le pasteur qui est devenu aujourd'hui mon époux. On échangeait, mais en moi, je n'avais aucune intention de me marier. Ça, c'est vrai. Je n'avais aucune intention parce que j'avais connu une déception auparavant. Et je me disais, mais j'avais peur de cette histoire. J'avais peur vraiment du mariage. Et le remariage, ça ne me disait plus rien. Et je ne sais pas. J'ai demandé au Seigneur, si cet homme n'est pas pour moi, Seigneur, que ces entretiens s'arrêtent là. Que ça s'arrête là. Et il s'est passé un temps de flottement, où d'ailleurs je ne voulais plus parfois écrire. Mais il est arrivé un moment où je crois que le Seigneur voulait déclencher le tout. Il est arrivé un moment où lui aussi avait ce même problème. Et il a relancé encore les dialogues. Et à un moment donné, il m'a dit, je viens là où tu es. Et sachez mes frères, on habitait à 2000 kilomètres de distance. Ceux qui connaissent le Congo, ils savent que Bukavu, c'est dans la province du Sud Kivu, mais Lubumbashi, où nous nous trouvons actuellement et où nous sommes mariés, c'est à 2000 kilomètres de Bukavu. C'est dans la province du Katanga. Et lui, il m'a dit qu'il venait. Mais quand j'ai vu qu'il avait fait autant de kilomètres pour venir me voir, et le billet, c'est pas... apparemment, c'est l'aller-retour, c'est comme l'aller-retour Bruxelles-Lubumbashi. Alors j'ai dit, mais cet homme qui s'est déplacé ainsi. Et c'est là que j'ai commencé à demander au Seigneur, c'est de toi ou non? Alléluia! Ceci vient de toi, oui ou non? Et quand je racontais aux enfants ce qui s'était passé, c'était les filles, hein, elles ont rigolé, elles ont ri. Vraiment, j'ai dit, mais maman, tu es vraiment terrible. Mais là, c'est pour vous dire, que Dieu, quand nous avons foi en lui, il fait même des choses extraordinaires. Quand il ne me l'avait pas clairement promis comme ça, mais j'ai senti que dans son exclamation-là, à propos du bonheur réservé à ses enfants, c'est une promesse universelle qu'il avait faite. Et il a compris que mon bonheur n'était pas parfait. Et c'est là que j'ai compris qu'il avait un plan pour moi, que je ne pouvais pas finir comme j'étais, parce que j'en avais déjà parlé à lui. Et le mois d'avril, les choses se sont précipitées. Il était venu chez moi en décembre et au 18 avril, on était mariés civilement, coutumièrement, civilement et religieusement. Alléluia. Et voilà, aujourd'hui, c'était le 17, Antonia. Ça, c'était ma prière de tous les temps. Et je me souviens de ce que le pasteur Antoine m'avait dit quand j'étais ici. Il me dit, nous sommes en train de prier pour Antonia, qu'elle trouve un bon mari. Moi, j'ai dit oui. Moi, j'ai prié toujours pour ça. Dès son bas âge, je disais, Seigneur, tu m'as donné une fille. La fin de toute fille, c'est le mariage. Que sa vie ne soit pas compliquée, Seigneur. Et j'ai prié pour ça. Et j'ai eu une révélation que je devais demander un homme de la réserve, de sa réserve, de la réserve du Seigneur pour Antonia. Et je suis persuadée, Jean, que tu es sorti de la réserve du Seigneur, d'après les témoignages que j'ai reçus de tout le monde. Amen. Mais le Seigneur a fait une grande chose encore pour moi. Moi qui n'avais eu qu'une fille, et je disais toujours, Seigneur, en cette fille, je vois 10 enfants au moins. Alléluia. Elle le sait parce que ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Je le disais plusieurs fois. Et quand je sais qu'elle l'a rapporté à une de ses cousines qui s'est moquée d'elle, elle a dit, mais ta mère aussi, hein? Alors, le Seigneur m'a donné non seulement un époux, un mari qui le sert aussi, mais avec lui 10 autres enfants. Amen. Et vous avez vu les deux, l'aîné qui est venu des États-Unis et la petite qui est là avec nous. Amen. Je me sens bénie. Et je voudrais que chacun de vous qui êtes là, si vous ne vous sentez pas encore béni, que le Seigneur vous bénisse et qu'il le fasse abondamment. Et vous savez, le passage de Marc, vous pouvez l'afficher s'il vous plaît, Marc 9, du 30 au 32. Je répète ton message, mon doudou. Il s'agit ici des apôtres. Ils suivaient bien Jésus. Ah, c'était avant. Hein? 9, 30 à 32, c'est ça. Hein? Marc 9, 30 à 32. Je crois que c'est le verset qui vient avant. Tu peux m'éclairer, Papa Franck? Ouais, de 32 à 34. Marc 10. Il s'agit ici des apôtres. Je prends la dernière phrase. Hein? Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Jésus avait bien expliqué aux apôtres tout ce qui devait lui arriver. Il leur avait dit comment on allait le faire mourir, mais il avait aussi annoncé sa résurrection le troisième jour. Bien-aimés, et c'est là le gros problème que nous avons, nous chrétiens. Malgré cela, ces apôtres avaient douté. Quand Marie est venue annoncer que le Seigneur était ressuscité, peu d'entre eux l'avaient cru. Ils ne l'avaient pas cru. Et Jean, nous dit la parole de Dieu, avait couru le premier. Il a couru comme il était encore jeune. Il a couru rapidement pour aller vérifier la chose. Mais il y a un Thomas qui était là. Lui, il a dit, si je ne vois pas, là où on l'a percé les traces de cela, je ne croirai même pas, même si vous tous vous y mettez pour me le faire croire. Amen. Et là, j'ai pensé à tous les versets contenus dans la Bible qui nous disent du genre, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, et quand le Seigneur dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai toujours avec toi. Et vous savez, les gens, ils croient que quand nous les proclamons, c'est facile. Mais quand nous sommes dans la véritable adversité et qu'il faille expérimenter maintenant ces paroles, oh, les gens deviennent incrédules. Les gens perdent cette foi. Or, ce qu'on nous dit encore de la foi dans Hébreux chapitre 11, au verset 1er, c'est la démonstration, la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pas facile. C'est pas facile. Quand le frère Pierre témoignait là, j'ai senti beaucoup d'émotion en lui. Et je me suis dit, voilà, là c'est un problème de foi. Mais je dis à Pierre, moi je voudrais que lorsque tu vas te présenter à l'hôpital, que le médecin puisse te dire, on n'a plus rien à opérer. Amen. Ça c'est la véritable foi. Alléluia. Ça arrive, hein, parce que Dieu travaille avec notre foi. Du reste, dans sa parole, il nous est dit que sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Sans la foi, si tu n'as pas la foi, Dieu n'entend pas ta prière de façon agréable. Ce n'est pas un parfum de bonne odeur pour lui. Alléluia. Alors, exerçons cette foi. Mettons-la en pratique. Et nous allons gagner les gens à nous, au Seigneur plutôt, quand ils nous voient avec cette foi active, cette foi qui déplace même, qui déplace les montagnes comme Jésus l'avait dit. Si nous avions même une petite foi comme ça, nous dirons à une montagne, déplace-toi de là et va là-bas. Moi, j'aimerais bien avoir ce pouvoir, j'aimerais bien avoir cette foi. Et nous tous chrétiens, nous devons demander au Seigneur d'activer cette foi qui déplace les montagnes, qui fait des choses merveilleuses, qui fait des miracles, qui opère des miracles. C'est cette foi dont nous avons besoin. Et quand j'ai dit que recevoir Jésus-Christ, c'est un acte de foi, c'est le plus grand acte de foi. Mais il faut aller avec jusqu'au bout du voyage. Aujourd'hui, je ne vais pas décevoir Antoine. J'ai encore combien de temps? Parce que je ne vais pas non plus déborder. Amen. Merci bien. Et quand on est animé d'une foi vivante, même la maladie peut reculer devant nous. Elle ne peut même pas s'approcher de nous parce qu'elle s'est dit, là, il n'y a pas de place pour moi. Là, c'est bien chaud. Alléluia. Nous devons ainsi mettre notre foi vraiment à l'épreuve, éprouver notre foi. Et j'ai compris avec cette peste, cette peste qui envahit l'univers entier, que notre foi, il faut encore la revoir. Il y a lieu de revoir encore notre foi, parce que tout le monde a peur de ça. Tout le monde en a peur. Mais pourtant, ce n'est pas ce qui nous est dit dans le psaume 91 que tout le monde connaît. C'est le verset qui parle de la peste et de ses ravages. Nous ne serons pas touchés. Nous ne devons pas être touchés. Dernièrement, une maman de notre église a témoigné que ses deux enfants avaient attrapé le COVID, mais le Seigneur les a guéris. Amen. Et il n'a pas permis que le reste de la famille soit contaminé. Moi aussi, j'ai ces témoignages parce que j'ai eu des membres de ma famille qui ont attrapé le COVID, mais le Seigneur les a délivrés. Malgré la peur que nous avions, vous savez, la foi n'exclut pas la peur. Mais avec la peur que nous devons avoir, nous, enfants de Dieu, il y a cette espérance que Jésus, par son sang versé, par la croix dont il a triomphé, qu'il est le vainqueur et il nous fait vaincre avec lui. Parce qu'il nous le dit, il nous l'a dit, ne craignez pas le monde, moi je l'ai vaincu. Alléluia. Donc nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur des problèmes qui surgissent à un moment donné de notre vie. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 62 ans, parce que moi j'aurai 62 ans au mois de novembre, quelqu'un qui a 62 ans, moi je ne pouvais même plus aspirer au mariage. Amen. Mais voilà, le Seigneur l'a fait pour moi. Et je sais que mon église hein, à Bukavu, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à leur annoncer que je partais. Ça n'a pas été une décision facile. Les actes de foi, ce ne sont pas des décisions faciles. Ce sont des décisions, comme chante quelqu'un de un musicien là, chrétien de Bukavu, qui avait été aussi un grand loubard. Il chante. Donc il y a un jeu chez nous. Et quand on le faisait quand on était enfant, c'est-à-dire, il y a, je crois que partout dans le monde, hein, il y a ces jeux-là existaient, où on se jette comme ça, on se jette, mais il y a des copains, des camarades qui sont derrière pour vous récupérer, afin que vous ne touchiez pas le sol. Et alors, il a déclaré dans une de ses chansons, « Seigneur, je me jette comme on le faisait quand on était enfant, parce que je sais que tu es là pour me soutenir, pour ne pas permettre que je me blesse ou que je tombe mal. » Alléluia. C'est ça l'attitude que nous devrions avoir, nous enfants de Dieu. Et quand nous ne manifestons pas une foi qui peut convaincre les autres, sachons que nous sommes en train d'affaiblir l'Église, nous sommes en train de nous affaiblir et nous n'avons en nous aucune puissance. Parce que la puissance du chrétien, c'est de gagner un autre à notre Seigneur. Alléluia. Et je poserai cette question à chacun d'entre nous. Combien par ta foi tu as gagné au Seigneur? Et si nous avions l'habitude de nous poser ce genre de questions, nous pourrions avoir le niveau que, disons, connaître plutôt, nous connaîtrions le niveau que nous avons atteint dans notre marche avec Dieu. Sinon, dans le cas contraire, nous serons des fidèles, des chrétiens stériles. Amen. Et personne n'aime être stérile dans ce qu'il fait. Et pour continuer et arriver vers la fin. Un instant. Mon époux lui a son iPad, mais comme moi je ne suis pas très spécialisée dans ces choses. Je voulais qu'on lise, qu'on nous lise quand même encore Éphésiens chapitre 3. Ça, j'ai pas donné ce passage. Et Éphésiens chapitre 3 et les versets 14 jusqu'à 18. Et on va lire aussi le 21. Éphésiens. Continuez, 14 jusqu'à 18, et puis le 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. On continue. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Que nous puissions vivre cette plénitude du Saint-Esprit, parce que de nous-mêmes, bien-aimés, même de moi-même, je ne peux même pas avoir un brin de foi. Mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons soulever des montagnes. Il faut que l'Église croisse, il faut que les fidèles croissent et que ce soit des flèches pour Antoine, hein, pour Antoine, des flèches qu'il va lancer partout où il voudra. Amen. Alléluia. Et nous, chez nous en Afrique, hein, nous lançons toujours des amen, des alléluia, pour nous convaincre que les gens nous écoutent. Hein. Et vraiment, nous devons rechercher cette plénitude du Saint-Esprit pour parvenir à une foi grandissante, à une foi qui déplace des montagnes, à une foi qui peut motiver les autres à nos côtés, à une foi qui fera du bien à notre entourage, à une foi qui va motiver tous ceux qui sont avec nous, nos collègues au travail, nos amis, nos frères, notre famille. Et c'est cela que je voulais vous communiquer, bien-aimés. C'est cela. Ne restons pas au début de notre conversion. Mais grandissons, grandissons, laissons-nous aller par l'Esprit de Dieu et marchons par l'Esprit et non par la chair. Parce que si nous faisons les œuvres de la chair, nous allons mourir. Or Dieu n'a pas besoin de nous morts. Il n'a pas besoin de morts, il a besoin des vivants pour apporter la vie dans le monde, pour apporter la vie aux autres. J'aimerais que nous soyons convaincus de tout cela, et cela va encore ajouter quelque chose à notre foi. Et à la fin, je vous dirai Jésus a dit, c'est lui, hein, il a dit dans Jean 8, 32, c'est un verset qui est populaire, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ceux qui avaient entendu cette parole, notamment les scribes, les pharisiens, ils se disaient, mais quelle vérité il peut y avoir en lui? Lui, il a un démon. Lui qui a un démon, quelle vérité il peut y avoir en lui? Et, or, il est encore celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est en lui seul qui a la vie. Et quand tu t'opposes à Jésus-Christ, tu exposes ta vie. Tu t'exposes à la mort, non seulement à la mort physique, mais aussi à la vie, à la mort intérieure, et aller dans la gêne où il y aura des grincements dedans et un feu éternel. Je ne veux faire peur à personne, mais ce sont des vérités bibliques que nous connaissons, mais dont nous ne nous imprégnons pas assez pour marcher dans cette crainte que le Seigneur attend de nous. Et j'aimerais qu'avant que je ne termine, et ce sera ce pourquoi nous allons prier, j'aimerais que chacun de nous, pendant une seconde, deux secondes, je sais que chacun a déjà pensé à ce qui le retient, parfois de se jeter en l'air, de se jeter en l'air parce que Jésus va le recueillir en bas. Tu penses à ce qui te retient encore pour te jeter comme ça, pour te lâcher. Antoine a parlé de ça. Non, c'est Christiane qui a parlé de ça. Lâcher prise. Donc lâcher ce qui nous retient encore pour nous donner totalement, entièrement à Jésus-Christ et afin de poser des actes dignes de foi, des actes qui entraînent les autres derrière nous, des actes qui encouragent les autres, des actes qui réveillent même les morts. Amen, pourquoi pas? Pensons à cela et demandons au Seigneur de nous le faire lâcher. Je vais prier, mais Antoine viendra prier encore. Seigneur, tu es maître de ta parole. Ta parole est puissance. Ta parole est vérité. Ta parole, c'est notre nourriture spirituelle. Seigneur, et ton peuple est devant toi. Il est devant toi, attendant de toi, Seigneur, ô Dieu, cette plénitude dont toi seul tu as le secret. Tout comme tu as créé l'univers entier, tout comme tu nous as créés, et tout comme tu as fait des plans de bonheur et non de malheur pour chacun de nous, Seigneur, que tout ce qui obstrue l'acceptation totale de toi dans la vie, Seigneur, de tes enfants, puisse tomber maintenant au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, touche les cœurs. Touche les cœurs maintenant, Seigneur. S'il s'agit de maladie, que cette maladie tombe à l'instant, au nom de Jésus-Christ. S'il s'agit des problèmes enracinés, sans solution, Seigneur, toi, tu es la solution. Nous voulons proclamer, Seigneur, des paroles que nous mettrons en action et non des paroles vaines qui n'ont aucun écho dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Seigneur, délivre, Seigneur, ton peuple. Délivre, toi qui as le pouvoir de délivrer. Restaure les âmes, oh mon Dieu. Restaure les cœurs meurtris. Restaure ceux qui se sentent rejetés, Seigneur. Ce que tu as fait pour moi, tu peux le faire pour tout le monde. Tu peux le faire, Seigneur, pour tous ceux qui se sentent solitaires, tous ceux qui se sentent rejetés, tous ceux qui se sentent abandonnés. Tu peux le faire, oh mon Dieu. Et je te prie, Seigneur, assiste-les, Seigneur. Manifeste ta grâce. Manifeste encore ton amour éternel. Manifeste, Seigneur, oh Dieu, cette fidélité légendaire, cette fidélité que nous avons expérimentée. Seigneur, assiste ton peuple, Seigneur, car il en a besoin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.